Nos trois sorciers sont de sortie chaque troisième vendredi du mois pour débriefer cette échéance du mois de mai sur les marchés actions. Philippe Béchal est avec nous, président des Econoclasts, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Salut Philippe.
Salut.
Jean-Louis Cussac avec nous également, Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. Et Romain Dobry, bien sûr, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour Grégoire.
Le bilan de cette échéance avec vous pour commencer, Romain. L'échéance d'avril avait marqué ce creux de marché, ce trou d'air qui a été résorbé en quelques semaines. La dernière échéance avait eu lieu le 19 avril et donc jusqu'au 17 mai aujourd'hui, on est sur une tendance positive.
Positive, oui. Bon, mollement positive à Paris.
Mollement positive.
On progresse de 1,72% un peu péniblement sur le CAC 40. 138 points de hausse. La compensation s'est établie à 8161,20. Donc à 16h aujourd'hui. Oui, à Paris, ça peine. Depuis quelques jours, on a cru à une sortie de trading range par le haut, débordé à des tops. Donc 8149 sur le futur juin, 8250 sur l'indice CAC 40 cash, qui sont des plafonds de verre. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était dans une séquence très technique. On avait identifié, on l'avait évoqué la dernière fois, que le niveau de 8000 autour allait être probablement revisité sur l'indice CAC 40, que 4800 sur l'Eurostoxx étaient des niveaux qui n'avaient pas été
étayés. On est à 5000, hein, c'est ça à peu près.
C'est ça, ouais, c'est 5100. Ça.
Mais qu'au-delà, il n'y avait pas d'intérêt.
Alors, au-delà de 5100, pas d'intérêt, et que la construction qu'on avait faite à l'époque jusque pour aller au-delà de 4880, 4009 sur l'Eurostoxx n'était pas été, qu'on risquait de revisiter ces niveaux. C'est ce qu'on a fait, on les a juste visités, mais c'était la consolidation à minima. Il n'y a pas eu d'accélération baissière. On a testé sur tous les indices des petits niveaux d'alerte, 8% de baisse sur le Nasdaq qui ont été plus que compensés, et sur les indices européens, même chose. Sauf qu'on a cru à la sortie par le haut sur les indices européens. Sur le DAX, ça a été le cas, pas sur le CAC 40 qui invalide mollement ce soir. On n'a pas trouvé d'intérêt. Alors, il y a des éléments intéressants au cours de cette échéance, c'est que au cours de la séquence de baisse qu'on a connue, on n'a pas eu de pression baissière ou quasiment pas. En revanche, dans le rebond, un peu de soutien acheteur, mais un soutien faible. Quand on lit, et c'est un petit moyen de faire un peu de pédagogie aussi, quand on lit la position ouverte sur les futurs, on lit l'intérêt, et ça c'est quelque chose d'objectif. On va, en fonction de l'évolution de la tendance, voir si le nombre de contrats futurs va augmenter, stagner ou diminuer. Si le marché monte et que le nombre de contrats futurs augmente, c'est qu'il y a du soutien. Mais il faut aussi modérer ça par le fait qu'il y a des stratégies qui viennent créer et alimenter ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des stratégies combinées entre options et futures et que l'intérêt qu'on voit naître n'est que technique. Donc il faut qu'il y ait quand même un soutien assez significatif. Là, on a connu sur l'Eurostoxx, dans le rebond qui s'est ouvert, je vais donner des chiffres exacts, on a vu un rebond et une hausse de 3,5% depuis le 3 mai. Et une hausse de la position ouverte de 8%, 200 000 contrats. C'est pas mal, mais il y a une part de technique, ça s'est fait un peu avant l'échéance. Sur le CAC 40, c'est ridicule, puisque au cours de cette échéance, on a progressé de 1,80%, on va arrondir, la position ouverte a baissé de 7%.
Ah, oui.
Donc on a un déficit clair sur le CAC 40 qui n'accompagne pas les autres indices.
Il y a une divergence entre le CAC et l'Eurostoxx.
Entre le CAC et les autres. Ouais. Et puis, sur le S&P, on a progressé de 5,72. Là, la position ouverte sur l'échéance, à hier soir, hein, je n'ai pas l'ouverture évidemment du S&P encore, à hier soir, et la position ouverte n'a progressé que de 1,5%. Mais, depuis le point bas du 2 mai, le S&P a progressé de 5,20, donc c'est le gros de la progression. Et là, la position ouverte a progressé de 6,47. Donc on a du soutien acheteur, mais ce n'est pas un soutien fort, ce n'est pas une grosse construction. Il y a une part de technique là-dedans aussi. Donc, on a un mouvement qui est, comme je disais, un peu mollement haussier, même si on a battu des records. Sur les indices américains, on ouvre avec des gaps haussiers au-delà des résistances majeures. On a du volume qui s'est un peu étoffé, c'est un peu autre chose. Sur les indices européens, c'est un peu plus mou. Et puis, comme vous le disiez, attention, on arrive à des niveaux de volatilité qui sont extrêmement bas. 12-10 sur le VIX, sur l'indice de la volatilité sur la S&P. C'est un niveau préoccupant. C'est un niveau à prendre en compte, puisque c'est le bas de la zone, à mon sens, de complaisance. Ouais. Si on passe en dessous, on entre en euphorie. Alors, on peut rester en euphorie longtemps, hein, des semaines, des mois, mais ça fait partie des niveaux sur lesquels on peut se poser la question de prendre un peu de bénéfice, faire un peu de cash et de se dire que si quelque chose venait, un grain de sable venait à survenir, ou si on lisait les éléments économiques notamment d'un autre angle, puisque le marché a l'air de vouloir lire toutes les nouvelles du même angle pour l'instant, il pourrait y avoir des réveils un petit peu difficiles.
Il n'y a pas d'alerte majeure. Il y a encore deux semaines pour conclure le mois de mai et le bon vieil adage du sell in mai n'est pas complètement enterré.
Ça pourrait être sell mid-mai.
Sell mid-mai, d'accord. Parce que pour l'instant, c'est plutôt un buy-in,
mais quand même. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de vendeurs. Donc, c'est intéressant. Des séquences de baisse qu'on a connues, les petites consolidations, n'ont pas vu la création d'intérêt baissier pour l'instant. Il faut rappeler que 2022 et 2023 étaient douloureux pour les vendeurs. Donc, je pense qu'il faut être prudent, avoir un peu de protection dans les portefeuilles et puis travailler un peu d'achat de volatilité sur ces niveaux-là.
Oui, c'est l'image, je rappelle, hein, c'est le dicton qui nous dit ça, mais ça ne veut pas dire vendez tout. Hein, c'est alléger un peu des positions, l'exposition au risque, pourquoi pas. Enfin voilà, la saisonnalité historique nous montre que c'est un moment où c'est toujours peut-être propice de le faire, ou c'est souvent propice de le faire. Mais ça ne veut pas dire liquider les portefeuilles actions.
C'est un élément qui vient en plus d'autres.
Mais un peu de nuance quand même.
Hein. On a repéré qu'il y avait des occurrences maintenant.
Oui.
Il ne faut pas en faire un mode de fonctionnement. Il se trouve que là, le timing est plutôt pas mal respecté, le schéma calendaire est pas mal respecté, et que ça s'y prête un peu, de toute façon, d'être un peu prudent, et qu'on voit ces signes de faiblesse, notamment de sous-performance du CAC. On a vu que le luxe avait beaucoup de mal, notamment à Paris, ce qui pénalise évidemment l'indice parisien. Le DAX a formé des nouveaux plus hauts historiques, donc c'est pas exactement les mêmes configurations. Mais ça aussi, le manque d'harmonie entre les indices, c'est quelque chose à prendre en compte.
Moins d'intérêt pour le luxe, c'est évidemment forcément moins d'intérêt pour l'indice CAC 40 en tant que tel, j'imagine.
Bien sûr.
Non, Jean-Louis ? Je sais pas, je vous vois.
Non, mais après, les performances du CAC et du DAX sont pas comparables, puisque le DAX rentre les dividendes et le CAC.
Oui. Mais bien sûr. On était dans la période et on est toujours dans la période de détachement des dividendes, donc effectivement.
C'est énorme la différence.
Oui.
100 points de dividendes au mois de mai, donc c'est moins 100 plus 25 de taux à peu près.
D'accord.
Prochain mois, c'est. C'est combien j'ai dit
67, moins 25.
67, moins 25.
42.
Merci.
Donc en net, dividende et intérêt net, c'est 42 points d'écart, c'est ça?
Voilà, 42 D'accord. points, parce qu'il y a 67 points, donc en effet, à enlever de dividende, et il faut rajouter.
Ouais.
Donc on a un spread de 42 à peu près, là. Mais ce spread va se réduire, et puis après, il peut s'inverser. Et d'ailleurs, c'est quand? C'est lundi, mardi, mercredi, là, il va y avoir 33 points déjà de dividende.
Qui vont détacher. D'accord.
Détacher. Alors. La hausse, moi ce que je voudrais faire remarquer là, dans tout ce que tu as dit, c'est aussi le fait que on a redémarré un mouvement de hausse dans le vide total. Parce que avec le 1er mai, le 8 juin, le 8 mai, etc., rappelez-vous que les deux premières semaines, là, il n'y avait personne sur les marchés.
Mmh.
On avait des volumes, c'était misérable.
Mmh.
On est bien d'accord. Donc l'intérêt. Où l'intérêt à acheter ou l'intérêt à vendre, bah, il ne rencontrait pas de résistance. Il y avait peu de densité dans les carnets.
Oui, complètement, oui.
Ce matin encore, le CAC 40 ouvre, il prend 40 points en 30 secondes. Il les repère en 4 minutes. Et puis après, il ne fait plus rien. Enfin, voilà, on a quand même des marchés qui n'envoient pas de messages puissants. Moi, je pense qu'ils sont à bout de souffle, vraiment. Quel serait le moteur potentiel? Alors, on peut tout imaginer, hein. Mais on a tout anticipé.
Oui, c'est-à-dire dans l'univers de ce qu'on peut connaître ou anticiper, oui, beaucoup de choses sont déjà sans doute dans les cours aujourd'hui. Oui.
Le plus, c'est-à-dire la baisse des taux a fait progresser les marchés énormément. Ensuite, on a parlé, les taux, ils vont plus baisser, ils vont peut-être même monter aux États-Unis. Le marché, il a pratiquement pas bougé, c'est là où il a baissé un peu. Et puis après, bon, les dernières statistiques étaient un peu rassurantes,
oui.
CPI, etc. Donc les gens...
Bon, on descend un peu sur terre, quoi, oui.
Voilà. Mais il n'y avait pas de vendeurs, il n'y avait plus de vendeurs. Puis le marché, du coup, il est remonté. New York, enfin, le SP500, ce que je regarde, a fait un nouveau plus haut, 1,15% au-dessus du précédent. Là, d'ailleurs, il reste pas loin de ses plus hauts. Mais bon, voilà, on se dit, mais quel pourrait être le prochain moteur?
Donc c'est pas l'effet bouchon de champagne. Enfin, je veux dire, on n'est pas d'accord.
Non.
Mais d'ailleurs...
L'idée, c'est que... On pourrait regarder... Enfin, moi, je pense qu'il faut donc sortir un peu... Après, l'intérêt peut venir avec l'idée que l'Europe va repartir sur le plan de la dynamique économique, etc. Les mid et small, on les a vus démarrer d'une manière franche, forte, avec des confirmations sur CGG, sur Elior, là. Après, il y a aussi des mouvements spéculatifs. Hein. Clariane, bon, il y avait une augmentation de capital. Bon, là, c'est pas fini, d'ailleurs. Là, ils ont annoncé une réservée. Mais
c'est l'ancien Corian, hein, c'est ça, Clariane.
Elle est passée à 4 avec quelques, à un moment donné. Puis elle est revenue un peu en arrière. Bon, ça s'est calmé. McPhee a explosé aussi. Il y a plein de valeurs comme Alstom qui ont bien progressé.
Et on le voit au niveau des indices. Hein, l'indice small, l'indice mid, mid and small à Paris, il est au même niveau depuis le 1er janvier que le CAC 40
même
large cap, quoi.
Même
au-delà, ouais.
Légèrement, j'ai vu depuis quelques heures.
Symboliquement,
c'est vrai. Explosé. les promoteurs immobiliers, la Nexity, Kaufmann, ça, c'est bien, ça, ils sont bien repris. Il y a la Compagnie des Alpes qui a beaucoup monté aussi. Je regardais, là, moi, j'en avais mis en portefeuille en me disant.
Publié la semaine prochaine.
Il y a un gros dividende. Ils l'ont distribué il y a peu de temps. Les perspectives sont pas mal. Je pensais pas qu'elle remonte aussi violemment. Elle a vraiment beaucoup boosté. On sent de l'intérêt. Sur les mid et small, j'ai l'impression que le risque à y aller est moins. On a moins de risques.
Ah ouais, je comprends.
Et moins fort qu'avant. Mais il faut être hyper sélectif. Voilà.
Ça tombe bien, c'est le job des gérants de small cap, quoi.
C'est ça qui est intéressant. Ah oui. Il faut chercher celle qui. C'est pour ça que Elior, moi, m'intéressait, parce que c'est des boîtes avec des gros chiffres d'affaires, qui commencent à faire un peu de marge. Ça peut décoller. Évidemment, De Richbourg a suivi derrière.
Ah bah, bien sûr.
L'action a décollé aussi. CGG, ils sont vraiment dans le pipeline. Il y a des trucs pas mal. Donc, moi, j'y crois toujours et j'en ai pas mal puisque je l'avais annoncé. Mais et je les garde, hein, je les vends pas. Puisque on est à quoi ? Alors, on est à 0, on a fait 0,6.
Vous dites l'intérêt a disparu pour l'indice CAC 40. Vous dites que ça se déplace quand même sur des cotes de taille un peu moins importante.
Il y a des analystes qui vont entre 1 et 1,30. Entre 0,9 et 1,30. On est à 0,55.
De quoi ?
Sur CGG.
Ah oui, CGG, oui, d'accord.
Bon, Elior, par exemple, là, c'est sous 4, c'était plus ou moins. Topiche, mais elle a tellement boosté là hier, c'était incroyable. Bon, ben là, moi je suis sorti aujourd'hui. Alors, bon, c'est vrai, hein, c'est pas évident. Alors, il y a des valeurs, on peut regarder, qui offrent des profils de risque faibles, qui n'ont pas encore redémarré. Bon, je dis pas qu'il faut en faire, mais Elena Santé, bon, elle est en train de digérer toutes ces catastrophes de ces derniers temps. Bon, c'est le truc que je surveille, je vais voir si le volume démarre. Mais de toute façon, c'est violent, hein. Quand ça démarre, ça va très vite. On voit qu'il y a quand même encore, de la part des investisseurs, un appétit pour le risque qui est présent. Hein. Ils ont envie d'y aller. Donc, parfois,
sur les small, ouais, il y en a beaucoup même qui
ça donne un.
Après, il n'y a pas eu de flux. J'ai l'impression, quand je discute avec les gérants sur les small françaises, européennes, les vrais gros flux, c'est compliqué. Ça se fait attendre. Tout le monde dit la baisse des taux permettra de voir des flux revenir sur les small et mid cap. Mais dossier par dossier, il y a déjà des choses qui se passent.
Les small, c'est des 500 millions minimum de capitalisation, on va dire.
Sous 1 milliard, quoi. Oui.
Ouais, voilà. Bon, alors que le compartiment des small, c'est en dessous de 150 millions. Le groupe C, c'est en dessous de 150 millions. Ouais. Là, c'est vraiment les small. Les mid, c'est considéré entre 150 et 1 milliard. Et les grosses au-dessus d'un milliard, groupe A. Mmh. Donc, on n'est pas dans les mêmes ordres qu'aux États-Unis de grandeur.
Oui, même si la cote française ou européenne de mid et small est de bien meilleure qualité que la cote américaine. Le Russell n'est pas revenu au contact S&P 500 à ce stade.
Enfin, Russell, il y a combien de valeurs ? 2000 ?
Oui, il y a 2000 valeurs. Bon, en Europe, on peut trouver des indices small avec plusieurs centaines de valeurs aussi, quand même. Bon, Philippe, votre échéance ?
Un régal. D'un point de vue phénoménologique, c'est un régal. Alors, la revanche des indices US par rapport aux indices européens, alors là, déjà, j'écrivais il y a 3 jours, déjà, le Nasdaq fait 4 fois mieux que le CAC depuis le 19 avril dernier. Le Nasdaq a pris exactement 10%, 10%
sur un mois, là.
Entre nous étions en plateau avec un Nasdaq qui était autour de 15 280 et on est à plus de 16 700, ça fait exactement 10%. Le S&P 7.2 maintenant, 7.2. Ouais. Le CAC 1,8, l'Eurostox 2.5. Enfin, vous vous rendez compte un peu, là, on s'est fait fracasser.
Là, on avait pris de l'avance en Europe.
Pas tellement, quand même. On avait fait, effectivement, un bien meilleur mois d'avril. On avait beaucoup moins, beaucoup moins baissé que Wall Street. Enfin, là, la revanche. On avait moitié moins baissé que Wall Street. Et Wall Street fait 3 à 4 fois mieux. 5 fois mieux, même pour le Nasdaq. Enfin, on se rend compte qu'il y a quand même un phénomène. Alors, essayer de l'expliquer un petit peu. Première chose, bon... Le dollar est un peu plus faiblard depuis quelques jours. Donc on rapatrie des actifs libellés en euros. Ça permet d'extraire une petite plus-value sur la devise. Mais enfin, ce n'est pas 1% de gain sur l'euro qui peut expliquer 10% sur le Nasdaq. C'est clairement la composition du Nasdaq qui explique ça. On est revenu en force sur les semi-conducteurs, les valeurs IA. Ça me paraît extrêmement clair.
Ouais.
Depuis déjà 10 jours,
il y a plus de... Nvidia publie la semaine prochaine, hein, voilà. Pour ceux qui s'intéressent à l'IA.
Bon, Nvidia est à 2350 milliards de capi aujourd'hui. On est à 5$ du plus haut absolu, voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'on attend encore, mais bon, il y en a qui disent que ça ira à 1000, voilà, donc...
1087, la cible. Ah ouais.
Donc, ça pour dire que, en plus de l'effet devise, en plus de la composition différente du Nasdaq, etc., je me dis quand même que depuis 10 jours, j'ai l'impression qu'on vend un peu en Europe pour aller soutenir des indices US pour les emmener au plus haut. Et puis, on y est aujourd'hui, hein, pour la séance des trois sorcières. Les volumes... Alors nous, c'était pitoyable l'année dernière. La semaine dernière, on a fait 2,3 milliards en moyenne par jour. Là, cette semaine, on n'est même pas à 2,6.
Bon, c'est le mois de mai.
Voilà, il n'y a vraiment pas d'intérêt acheteur. Et aux États-Unis, le phénomène, depuis le 3 mai, vous regardez, par exemple, le nombre de lots qui sont traités sur le contrat SPDR du S&P, on est à 72-75 milliards en moyenne longue. Le précédent record du 28 mars du S&P, on est à 100 000 contrats sur le SPDR. 96 000 le lendemain, 80 000, ça bourre. Là, depuis le 3 mai, les volumes sont tombés de 70 000 à 45 000, 40 000. Lundi, le record, 29 millions de contrats seulement. On vient de 100 millions.
Sur le TF S&P.
On vient de 100 millions le 28 mars. Et là, on termine la semaine, on est à 42, 43. L'activité, elle est tout simplement divisée par deux. Et pourtant, on a réussi à remonter tout ça au sommet. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand il n'y a pas d'intérêt acheteur et que ça monte quand même? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vendeur. Et voilà ce qui est devenu ce marché. C'est un marché où plus personne n'ose se mettre en face du rouleau compresseur.
Attends, Philippe, parlons-en. C'est vous-même qui le disiez avant qu'on ouvre les micros. Il y a eu combien de milliards perdus par les short-sellers justement en début de semaine
Sur les mêmes stocks.
Sur le regain de la folie même stock. Oui, il y en a toujours des vendeurs.
Voilà, donc oui, on a quelques vendeurs sur des valeurs des small.
D'ailleurs, non, mais finissez sur les indices, Philippe. Ouais. Hein, je voulais.
Non, mais ça permet aussi de rebondir sur le fait que Elior, j'ai tout ça, ça rebondit aussi parce qu'il y avait, du vendeur. Ouais. Mais il n'y a pas de vendeur sur les indices. Voilà. Là où il y a du contrat CAC, du contrat S&P, des options, il n'y a plus de vendeur.
C'est la fin de la hausse.
C'est une espèce disparue. Non, même dans les plus fortes hausses, vous avez toujours des vendeurs. Là, il n'y en a plus. D'où la question que je me pose le jour où le marché se retourne.
Oui, mais c'est ma question. Est-ce que c'est la fin de la hausse? S'il n'y a plus
J'en
de vendeurs.
Sais rien. Je ne sais pas si ça... Non. On n'a jamais vu ça. Enfin, moi, en 40 ans, je n'ai jamais vu l'indice
s'il y a plus que des acheteurs.
Faire un top le 28 mars avec des journées à 70 ou 100 millions de contrats et on revient sur les sommets avec 40 millions de contrats, la moitié. J'ai jamais vu ça, moi. En 40 ans, ça n'existe pas. Donc, on est là vraiment dans une terra incognita. Et surtout, ce que je sais, par contre, c'est que quand dans un marché où il n'y a pas de vendeurs, quand ça se met à chuter, qui rachète personne.
Bon, donc s'il n'y a plus que des acheteurs... Qu'est-ce qui se passe?
Il y a du cash.
D'accord.
Il y a du cash disponible, vraiment. Du cash qui n'était pas investi. Du cash qui a été mis en monétaire et qui voit que les taux vont baisser un peu et qui ont raté une partie du train sur pas mal de valeurs. Qui voit que les small et mid, ça bouge un peu. Donc, ça pourrait susciter des intérêts. Par ailleurs, il y a de l'intérêt.
Bon, après, t'es encore bien payé sur du monétaire. Hein,
C'est encore pas mal, mais... En tout cas, il peut y avoir une alternative, s'il y avait un trou d'air, de se dire, tiens, ce serait un bon moment pour rentrer. Ça dépend de quelle façon se déclenche ce trou d'air. Mais donc, je pense que ça protège un petit peu aussi, même si, encore une fois, les niveaux de volatilité font que ça pourrait secouer un peu plus que ça ne le pouvait il y a un mois de ça. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est que la position ouverte indique qu'il y a de la place. Quand on était en point bas des marchés en septembre 2022, il y avait 4 500 000 contrats ouverts sur l'Eurostox. Hier soir, il y en a 2 800 000.
Ouais.
Donc, il y a de la place pour que de nouveaux entrants arrivent. Donc, ils n'ont pas beaucoup soutenu ce mouvement-là. Ils pourraient être là en soutien si le marché baissait un peu. En tout cas, il n'y a pas de vendeurs, ça, effectivement. C'est confirmé et avéré par cette hausse qui se forme sans soutien. Encore une fois, on est nettement plus haut 2 ans plus tard et on n'a pas d'intérêt. Donc, Je pense qu'il peut y avoir des forces de rappel. Si ça consolidait un peu, je pense qu'il y a des points d'entrée. Pas mal voulait, hein, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, acheter sur repli. Ouais. Quand il y a eu le trou d'air, on l'a vu, 8% sur le Nasdaq, on est plus haut maintenant. On a un peu la même configuration que celle qu'on avait rencontrée il y a un an de ça, à savoir qu'on avait payé d'octobre 2022 à avril-mai 2023. Et on a consolidé latéralement pendant jusqu'au mois de septembre, trou d'air fin septembre. Et là, ça a permis de recréer une dynamique.
Et rebelote octobre jusqu'à
pour l'instant,
mai 2024.
Exactement. Alors pour l'instant, le marché a la même configuration. Il ne faut pas toujours systématiquement la même chose. Hein? Mais là, on voit qu'on a plus de peps, qu'on ne paye pas les plus hauts. En revanche, dès qu'il y a un trou d'air, on a manifestement des intérêts, des acheteurs. Voilà. On
regarde et l'idée d'un trou d'air, c'est l'idée de ce qu'on a vu en avril, ou ça peut être un trou d'air plus marqué que ce qu'on a vu en avril?
Ça peut être un petit peu plus brutal techniquement. D'accord. Graphiquement, je ne pense pas qu'on aille beaucoup plus bas. Encore une fois, je crois qu'on a trouvé des niveaux sur lesquels on peut racheter. C'est en gros 7008, 8002 sur le CAC.
Oui, ça reste les mêmes,
bords,
les mêmes points d'entrée pour des acheteurs potentiels.
Sur les caractéristiques du marché, notamment américain, on a toujours des flux entrants d'investisseurs. Alors cette semaine, je verrai les statistiques bientôt, mais à vendredi dernier, si vous voulez, les flux, ils étaient vraiment extrêmement forts acheteurs d'ETF, actions, sur les actions américaines. Hein. Américaines, c'était très important. Dans le monde entier, c'était encore les États-Unis qui étaient là, présents. Ensuite, on a toujours des volatilités de liquidités extrêmement fortes. Et ça, au niveau des volumes et des variations de volume, c'est parce que aussi les marchés sont hyper impactés par tout ce qui est options, zéro day, etc. Et donc, on en arrive à une situation même aux États-Unis.
Ça devient un vaste casino, quoi.
Non, mais c'est que là, ce sont des paris, oui, bien évidemment. Mais ce sont des paris sur lesquels il y a du hedging. Donc, si ça monte, il faut acheter pour couvrir les calls. Et si ça baisse, il faut vendre pour couvrir les puts. C'est les markets qui le font. Aux États-Unis, c'est clair et net. Aussi chez nous, hein, mais là-bas, ils achètent beaucoup. En effet, les paris, c'est j'achète le call, j'achète le put. Et derrière, ça entraîne des algos qui gèrent les positions pour hedger, c'est pour couvrir ces ventes, et qui amplifient tous les mouvements d'une manière extrêmement violente.
On le voit sur les publications, sur la publication d'un chiffre, on voit les mouvements qui sont violents.
C'est la mécanique qui a entraîné l'envol des mêmes stocks, c'est-à-dire que d'un seul coup, là, toute la communauté qui suit Ron Kitty achète des calls, le market maker est obligé d'acheter des titres pour se couvrir, et puis derrière, c'est l'emballement, le delta qui explose, enfin voilà.
Donc, on en arrive à une situation qui n'est pas encore celle à la française, mais en France, qu'est-ce qui se passe sur le marché français? On a un volume entre 9h et 17h30. Ça s'arrête pendant 5 minutes et le fixing. Aujourd'hui, c'est au fixing autant que ce qu'on fait dans la journée. Ça pose problème quand même. Alors, aux États-Unis, ce n'était pas le cas, mais là, à cause de ces options, alors je ne sais plus exactement les délais, mais c'est 30% du volume, je crois, dans la dernière demi-heure.
10 minutes.
Ouais, 10 minutes. Bon, moi, je vais prendre la dernière demi-heure. Allez, je leur laisse à même 30 minutes, 20 minutes de plus. Mais c'est délirant. Il n'y avait pas ça avant. Bon, voilà. Et ça, c'est dû à des facteurs techniques, et moi, j'insiste depuis très longtemps là-dessus pour que les gens se comprennent, à des phénomènes de construction qui sont hyper impactants. Et comprendre ce qui se passe sur les options, c'est important parce que ça explique beaucoup de choses. Et quand on a la solution de l'explication, ça évite de se poser des questions métaphysiques et de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, etc. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, pour finir avec la volatilité des marchés, c'est la volatilité implicite dont tu as fait un peu... t'en as parlé un peu tout à l'heure. On devient un peu, pour la première fois depuis très longtemps, je trouve qu'on s'approche d'une complaisance. Pas vraiment encore dans la construction, parce que les clients finaux ne vendent pas d'options. Ils sont tellement fait avoir dans la baisse de 2020 que bon. Mais quand même, on arrive là sur du delta 0,3 en juin à du 9. Donc on a vraiment une baisse de la volume implicite qui est quand même assez incroyable. On est à 10,5 à peu près à la monnaie. On devrait être plutôt, franchement, dans la période actuelle.
Ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu utiliser effectivement le mot de complaisance ou de risque de complaisance.
Oui, parce qu'on sera à 11,5-12. Moi, je trouve que ça se comprendrait très bien aujourd'hui avec les risques géopolitiques, les risques... Vous vous rendez compte que la guerre commerciale annoncée entre les États-Unis et la Chine,
Archi-inflationniste.
Rien provoqué.
Archi-inflationniste.
Oui, et ça n'a rien provoqué. Bon, eh bien, oui, en plus. Mais regardez, la vol implicite est restée très faible. Et surtout, qu'est-ce qui se passe sur le... Un peu au-dessus, tu prends du call 8004, 8003, t'es tout de suite à 9 de vol, quoi. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont des petits warnings qui s'allument, des petits clignotants, faites attention, etc.
Bon, sur les mêmes stocks ? Ça m'intéresse quand même. C'est allé très vite cette fois, hein, parce que là, ce soir, je crois que GameStop revient déjà sous les $20, donc c'est les niveaux que GameStop traitait en début de semaine, quand il ne se passait rien sur GameStop. Quoi.
Et donc 200% de hausse en deux séances, les vendeurs à découvert qui sautent par la fenêtre. On a fait le calcul qu'entre AMC, les salles de cinéma, et GameStop, c'était autour de 5 milliards de paumes. Mais réel, c'est-à-dire que vraiment, là, ils ont été obligés de se racheter. Les options, on ne pouvait même pas en trouver. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Puis tout le monde commence à s'exprimer en se demandant s'il ne faut pas un tout petit peu de régulation. Mais ça qui survient alors que...
Ça nous dit quoi ?
Ça survient alors qu'on s'emmerdait ferme, je dirais, sur le S&P depuis le 3 mai. Il n'y avait pas de volume, il n'y avait plus de volume sur les grosses. D'un seul coup, il y a eu une opportunité d'aller faire de l'argent sur des smalls, sur des petites. Donc ça s'est fait, voilà.
Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est un tweet. Il n'y a même pas de mots, je crois. Hein.
Non, c'était un petit dessin.
C'est une image postée par un compte... Chaton rugissant qui était endormi depuis 3 ans.
Voilà.
Et un tweet, une image.
Il a gagné par près de 40 millions de dollars. Hein, y a
sur 3... 2021
En 2021 il est passé de 50 000 dollars à 40 millions.
Ah bah, tant mieux pour lui. Voilà. Non, mais ça me fascine de voir qu'effectivement, on peut créer et ou détruire autant de capitalisation, j'allais dire, simplement sur la base d'une image, quoi.
Oui, c'est ça. Parce que je ne sais pas si ça relève de la psychologie, de l'hypnose.
Bah, j'imagine, hein. De psychologie, j'imagine quand même.
Voilà. Alors maintenant, je voudrais aussi mettre l'accent sur un autre signal qui me paraît très fort. Bon, l'or, l'argent, ça y est, ça fait un breakout à la hausse. L'argent dépasse ses sommets de début août 2022, de mi-avril 2024. Et là, c'est vraiment avec du volume. Et c'était la pire journée aujourd'hui, si vous voulez, pour voir l'argent faire 3,5, l'once d'or passer les 2004. C'était la pire journée. Le dollar remonte un peu. Généralement, l'or évolue à l'envers.
Ouais, il s'est plutôt un peu détendu quand même ces derniers temps.
Les taux d'intérêt, ils se détendaient bien en milieu de semaine. Il faut se dire, bon, d'accord, alors là, l'argent, il y a un peu de soutien, les taux se détendent, paf ! Le 10 ans français repasse au-dessus des 3, le 10 ans allemand repasse au-dessus des 2,5, le 10 ans US repasse au-dessus des 4,5. Mais c'était la pire journée pour voir l'argent gagner 3,5. Il a tout, il n'y a que des vents contraires aujourd'hui sur l'argent et pourtant il passe. Et là, il y a des gens qui achètent, c'est pas de la spéculation, c'est pas Roaring Kitty là. C'est l'inverse total, c'est des mains très solides. C'est pas le petit spéculateur, c'est des gens qui connaissent par contre par cœur les mécanismes du LME, etc., du CBOT. Donc ces gens-là, ils savent quelque chose, hein, parce qu'on ne paye pas l'argent 30 dollars, 30 et demi, un jour où les taux montent. Voilà. Donc,
il peut y avoir un petit décalage. Je sais que l'or a monté à un moment où les taux réels montaient et que personne ne comprenait pourquoi l'or montait alors que les taux réels montaient. Donc, les taux, ils ont quand même, depuis 4,70, voilà, on a reperdu 30 points de base quand même.
Ouais, mais par rapport
pourquoi maintenant, d'accord.
Je veux dire par rapport au 19 avril dernier où on était là avec un Nasdaq à 15 200, les taux ont pas baissé, le Nasdaq a repris 10%. Donc là aussi, on peut se dire sur quoi s'est appuyé le Nasdaq, pas sur la détente des taux. Donc là.
On a réanticipé quand même deux baisses de taux de la Fed cette année.
C'était 7 à 8 en début d'année. Donc.
Non, oui, non. Je suis d'accord, mais en tout cas, on est passé par zéro.
En tout cas, t'as raison. C'est-à-dire que quand on a vu leur montée, en dépit, on peut dire, de toutes les mécaniques classique, ça nous a amené à nous poser la question de qui était acheteur. Et là, en appelant 2-3 fondeurs suisses, vous savez que là, tout leur part en Chine, part en Inde, etc. Et l'argent, je peux vous le dire, là, les fondeurs suisses ne peuvent pas fournir. Vous ne trouvez pas de lingotins d'argent, vous ne trouvez pas de pièces d'argent à l'instant où on se parle.
Donc on peut acheter que sur des produits financiers.
Voilà pourquoi.
Ouais.
T'as répondu à la question.
Romain,
L'argent,
ça fait... Vous aimez bien, on ne peut pas dire le contraire.
Ah non, ça fait des années. pour être transparent. Oui, oui, non, c'était quelque chose qu'on avait vu arriver, une accumulation qui se mettait en place de long terme. Graphiquement, effectivement, on avait signalé le déclenchement de la 25-32 et la sortie d'une congestion de 3 ans. Donc oui, un mouvement fort sur l'ensemble des matières premières en général. De toute façon, le cuivre aussi, 30% depuis la mi-mars, on l'avait signalé. On a atteint une cible graphique qui est quand même hyper importante. On a rallié un niveau qui était des tops de 2021, puis de 2022 et surtout de 2011 précédemment, aux alentours de 5. Donc il y a un mouvement fort qui se met en place. Maintenant, peut-être une petite pause à court terme. On peut re-rentrer sur le cuivre entre 4,60 et 4,70 si on veut intégrer le mouvement. Il y a peut-être une petite consolidation à venir encore. Quant à l'argent, effectivement, il a rarement eu des mouvements aussi brutaux et aussi constants, parce que c'est très volatile, l'argent. Et donc, comme je le suis depuis longtemps et qu'on a eu pas mal de faux départs, là, l'accumulation sous 29,35 a été rapide, et le rebond et l'accélération au-delà pour aller chercher la prochaine cible à 31,70 et la cible idéale du mouvement qui est aux alentours de 35. Donc, on a encore de la place potentielle. Ça peut se mettre en place et ça peut continuer effectivement assez rapidement. Et c'est pour ça que les mêmes stocks, bon, bah, c'est un peu triste, parce que, enfin, je serais ravi de cette histoire qu'on nous racontait en 2021 de la victoire de Main Street contre Wall Street, mais quelles sont les positions réelles de Main Street qui ont payé au plus haut des titres qui valent plus la moitié et encore ce soir le cinquième de ce qui valait dans le courant de la semaine. Donc c'est super, il y a des gens qui savent, qui connaissent
pour
le marché,
pour chaque enregistrant, voilà, combien ont perdu,
et donc je trouve pas l'histoire qu'ils avaient sur leur compte, je serais ravi que ce soit vrai, mais c'est pas vrai ce mythe de la victoire de Main Street contre Wall Street. Donc il y a beaucoup de perdants aussi là-dedans, et c'est un peu dommage parce qu'il y avait des choses à faire ailleurs. Donc les matières premières, on l'avait dit, les small et les mid caps, il y avait des choses à faire, et puis l'Asie, on l'a dit aussi il y a quelques temps,
la Chine,
ça se met en place, et la Chine notamment, avec effectivement des hausses qui sont significatives, qui sont mises en place. Il y a Alibaba qui est sorti d'une congestion qui date de 4 ou 5 ans maintenant, avec des résultats horrible, mais qui a pris déjà une quinzaine de pourcents depuis.
Ça, c'est toujours bon signe quand les mauvaises nouvelles font plus baisser un cours de bourse, voire le faire rebondir.
En tout cas, il y a de l'intérêt et on cherche, et on a une cible qui se situe avec encore 20-30% de hausse possible sur Alibaba aux alentours de 110-120. Donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place vraiment de ce côté-là. Donc, il y a des choses à faire en dehors des gros indices. Sur une CAC 40, on a pris un 80% mollement. En dehors de ça, il y avait des choses qui sont bien développées.
Il n'y a pas que le CAC.
Il n'y avait pas que les mêmes stocks pour faire des trucs intelligents. Le marché.
Je vais vraiment te poser une question en 3 secondes. Est-ce que tu as des indications sur les positions ouvertes sur l'argent ? Est-ce que tu sais à combien se montent les positions vendeuses ?
Non, je ne l'ai pas parce que j'ai le COT, je peux regarder. Pas les positions vendeuses, mais je peux regarder si l'intérêt continue à monter. En revanche, je sais quand on a déclenché le signal il y a un mois de ça, deux mois de ça, et qu'on l'a indiqué ici, l'intérêt avait très significativement monté et il a suivi la courbe de progression du marché. Donc l'intérêt spéculatif a suivi et a accompagné.
Vous nous le mettrez sur un petit post X Twitter. On sera intéressé. Tout le monde sera intéressé d'avoir. Alors, Jean-Louis, oui.
Non, mais c'est combien le coût de l'emprunt de titre pour revendre à découvert ? Moi, c'est des choses qu'il faut regarder, parce que ça aussi.
Ça fait partie des valeurs les plus shortées, de toute façon. Donc, à un moment, c'est pour ça qu'ils y vont, les gars.
Est-ce que c'est vraiment des acheteurs ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup de vendeurs qui se rachètent parce que ça coûte. Vous savez que quand vous empruntez de l'argent pour acheter des titres, vous en trouvez toujours de l'argent, quoi qu'il arrive. Après, en fonction de ce que vous pouvez amener en garantie. Mais vous avez de l'argent à 3, 4, 5, en fonction du taux d'intérêt. Vous en avez, vous en trouvez tout le temps.
Il y a forcément une mécanique de rachat de short.
Par contre, ça fait partie
des valeurs les plus shortées.
Des titres, c'est limité au nombre de titres. Donc, si celui qui possède le titre ne le prête pas, parce qu'on se plaint souvent des vendeurs à découvert qui massacrent, mais ils massacrent ce qui ne marche pas.
Aux États-Unis, on a droit à plus. Alors, le nombre de titres.
Je ne sais pas comment.
140 quelques pourcents.
Voilà. L'emprunt de titre peut aller au-delà du nombre d'actions en circulation.
C'est de la folie.
C'est le leverage à l'américaine.
Chacun se faire son opinion.
C'est le leverage à l'américaine.
Le coût que ça coûte, et ce coût dans l'emprunt, lui, c'est pas 3-4% par an, ça peut être. On a connu des situations dans le passé avec des 50% par jour.
C'est le déport, c'était le fameux déport.
C'était la folie.
Bon, on verra ce qu'il en est. En tout cas, la parenthèse a été rapide sur les mêmes stocks, puisque GameStop, on le disait, est revenu ou en train de revenir sur les cours de début de semaine. Dans les mouvements qui font commenter aussi, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'au moment de l'échéance d'avril, enfin, ou mi-avril, Alors je sais pas, on n'est pas allé à 1,05 sur l'euro-dollar, mais on était peut-être passé à 1,06 ou un peu en dessous. Ça n'arrête pas de remonter depuis ces dernières semaines.
On a stabilisé. Moi chaque jour, j'écrivais, parce que vous l'avez reçu, y avait tout pour que l'euro remonte. Bon, sur le plan technique, c'était un peu baissier. Donc c'était baissier bien neutre. Et puis on l'a vu doucement, jusqu'au CPI. Ouais. Où là, ça a franchi mon reverse. Là, c'était propre, à 1,0830, on est monté direct. Et puis là, ça se redégonfle un petit peu à nouveau, mais parce que voilà, il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur... beaucoup... C'est difficile à dire, parce qu'on a...
Là aussi, c'est à bout de souffle, comme vous le disiez, pour le CAC et pour les marchés.
C'est différent, parce que là, c'est pas à bout de souffle, parce qu'on n'investit pas sur des choses qui peuvent être rémunératrices, comme une société, mais, mais c'est sur des politiques monétaires.
Les drivers sont différents, oui.
Voilà, c'est différent. Alors... C'est pas à bout de souffle, c'est plutôt à bout de conviction. Plutôt à bout de conviction. À un moment donné, on se pose la question. L'idée étant que sur le long terme, si l'économie européenne redémarre vraiment, l'euro sera plus attractif. Les États-Unis finiront par baisser aussi leurs taux, puisque là, on a anticipé qu'il y aura un décalage par rapport à l'Europe. Donc, l'idée, c'est que partant de la situation d'aujourd'hui, dans une optique long terme, l'euro devrait se valoriser.
Ah ouais, intéressant. Intéressant. Bon, sur les devises, je ne sais pas, il y avait des choses intéressantes à signaler.
Je parie que la Banque Centrale du Japon, la BOJ, va devoir en remettre un coup. Parce qu'on est...
C'est quand même dans le seuil d'intervention, c'est 160
En fait, ça aurait dû être 156,5. C'était le précédent record de 1990.
Hein. Voilà. Oui, bien sûr. Walkman et de retour vers le futur.
Quand on a cassé les 157, c'est parti à 160. Bon, là, c'était alerte rouge. Et bon, ils y sont allés. On voit qu'il n'y a toujours pas d'intérêt acheteur sur le yen. Et puis, alors, la croissance japonaise, -0,5. L'inflation, 2,5. C'est quand même assez mauvais. Je dirais comme combinaison.
Oui.
Et on voit pas ce qui va sauver le yen à très court terme. En ce qui concerne l'euro et le dollar, moi j'ai tendance à penser que les banques centrales vont pas baisser les taux. Je pense que l'analyse des prix à l'import, la guerre commerciale sino-américaine, la hausse de 30%...
Attends, la guerre commerciale sino-américaine, elle existe déjà depuis 10 ans maintenant. C'est ciblé sur moins de 5% des produits chinois importés par les États-Unis.
Les véhicules, c'est Epsilon, effectivement, les véhicules chinois. Les semi-conducteurs sont visés, les composants de batterie... On est bien au-delà maintenant en termes d'impact.
Si tu cumules tous les... Mais là, ce qui a été annoncé par Trump, ça vise 18 milliards de dollars de produits chinois importés.
Biden ou Trump ?
Biden, pardon. Voilà. Oui.
Mais il fera pareil, Trump.
L'augmentation des taxes ou la mise en place de nouvelles taxes concerne 18 milliards de dollars de produits chinois importés. C'est moins de 4% des importations chinoises par les États-Unis.
Qu'est-ce que vont faire les Chinois ? Ils vont mettre 18 milliards aussi.
Oui, je suis d'accord.
À la sortie, ça fait 35 milliards. Non, donc tout est inflationniste. La démondialisation est inflationniste. La guerre commerciale sino-américaine est inflationniste. La hausse des salaires était inflationniste. Il manque plus que le pétrole qui, heureusement, est redescendu de 91 à 82. Et si on le revoit à 90 à la fin du mois de mai, tout sera au rouge pour l'inflation. Je pense que les banques centrales vont pas beaucoup baisser les taux.
Entre
8 et 2, entre 8 et 2, déjà, on aurait dû faire une dépression.
Mais personne ne dit qu'elles vont beaucoup baisser les taux. On ne parle que de recalibration et personne ne dit qu'on va même aller directement au taux neutre ou en politique monétaire accommodante. Je ne l'ai pas jamais entendu, en tout cas.
Moi, je n'irai pas le soutenir non plus. Je dis simplement que par rapport à 8 baisses de taux, on est plus qu'à 2. Donc, c'est déjà plus le même monde. Et la facture, le coût de la dette, il est de 1100 milliards maintenant. Aux États-Unis, il va manquer des sous. Et je pense que ce que la hausse de l'argent et de l'or dit, c'est que pour payer les créanciers, on va imprimer.
Non, mais la question du cycle de baisse de taux, elle est tout à fait légitime. Est-ce que c'est un cycle normal qui va jusqu'à la neutralisation de la politique de taux des banques centrales ? Personne n'en sait rien. Et toute prévision au-delà du 5 novembre est caduque de ce point de vue-là. Il n'y a pas de
sujet. Pour moi,
l'inflation,
ça détruit la dette de façon indolore. On imprime de l'argent derrière. Qu'est-ce qui reste ? Il reste effectivement l'argent, le cuivre, voilà.
Bon, je ne sais pas si on reparle des small. Moi, je veux bien qu'on redise un mot, là, je ne sais pas, dans le, puisque c'est un marché de stock picker, Romain.
Alors, si on prend les paniers qu'on avait évoqués, je regardais, on est à 2, 3, 4% selon les paniers de valeur de small et mid-cap, des cibles, des premières cibles idéales. Ça ne veut pas dire que ce soit pas un mouvement de fond, il y a même de la place encore à moyen et long terme. Donc, c'est à continuer. Maintenant, il y en a pas mal qui ont déjà beaucoup performé, ouais. Il y a des cibles qui sont atteintes, c'est difficile, effectivement. On en avait cité quelques-unes qui ont atteint des niveaux graphiques, il va falloir des consolidations, des confirmations. On n'a pas les mêmes configurations sur une CGG qui a fait une petite figure de retournement en un mois ou deux, et sur des valeurs beaucoup plus larges, je ne sais pas, Vallourec, par exemple, qui a fait quelque chose d'une consolidation qui a duré 4 ans. Donc, on n'a pas les mêmes mouvements et pas les mêmes rattrapages, à mon sens. Et déjà, il va falloir trier là-dedans. Ensuite, si on veut trouver quelques valeurs sur lesquelles ça bouge un peu encore, j'ai identifié Holot Group, ouais. Qui a l'air de sortir d'un trading range là ce soir. Il y a Aubay qui réaffirme une petite dynamique haussière. Aramis, V4 c'est un peu différent, c'est déjà pas mal entamé, mais elle s'attaque à des niveaux importants. Donc voilà quelques valeurs qu'on peut regarder. Je pense qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Du côté des secteurs forts, il y a toujours la banque. Ouais. On le répète, voilà, si on veut des secteurs vraiment... Ouais. En Europe, oui, bien sûr.
Il n'y a pas d'alerte
Non, il n'y a pas d'alerte, pas de figure de retournement. Ouais. Je me fais même surprendre de devoir mettre des résistances supérieures sur les graphiques. Ouais. Ça continue régulièrement. Ouais. L'assurance surperforme depuis quelques temps, malgré des secousses sur des valeurs comme Scorp, c'est la réassurance, mais, qui est pourtant un très beau parcours. On a les télécoms où ça prémit un peu, on peut regarder, mais les télécoms, on l'a annoncé plusieurs fois et ça s'est mis en place. C'est peut-être en train de surperformer. Il n'y a pas vraiment de secteur hyper fort. Ressources de base, on en parlait. Ça a monté, mais ça ne surperforme pas. Les valeurs elles-mêmes, non. Donc, c'est directement lié aux matières premières. Les équipementiers.
Automobile, ouais.
Automobile. Ouais, ça se met en place. Avec pas beaucoup de momentum, mais on le disait en début de semaine sur Forvia. Et puis, Forvia, finalement, elle a bien progressé cette semaine. Donc, le momentum, ça avance. La Chine, toujours. Ouais. Et les paniers de matières premières. Le Como a encore une douzaine de pourcents de place à prendre derrière.
Pour conclure, Jean-Louis.
Non, mais sur Holot, que tu as cité, La direction d'Holot achète des titres depuis déjà un certain temps.
Donc, il y a plein de boîtes qui achètent des titres.
Hein. Non, mais moi, ça m'a surpris parce que c'est vrai qu'Holot, ils n'ont pas la taille critique, ils ont quand même beaucoup de difficultés, etc. Et le titre a monté. Et donc, auprès de l'AMF, on voit bien les annonces les déclarations obligatoires si jamais des insiders achètent donc des titres. Et c'est le cas sur Holot. Voilà, c'est assez étonnant.
Ah, mais c'est à suivre. Hein. C'est toujours des informations d'insiders à suivre. Hein, bien sûr.
Il y aura quelque chose à un moment donné. Mais c'est vrai que ça achète un peu.
Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous comme chaque troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse pour débriefer l'échéance du mois de mai, en l'occurrence sur les marchés avec un CAC qui clôture en léger retrait, moins 0,25% sur cette séance, 8167 points. Merci à vous trois messieurs, les trois sorciers de Smart Bourse.